RFI 9h à Paris et à Rome, 10h à Antananarive.
Andréane Mélard
et Grégoire Morelli pour le journal. La dépouille du pape François exposée aujourd'hui dans la basilique Saint-Pierre.
Ah oui, la cérémonie accompagnant la dépouille du souverain pontife vient ou devrait commencer d'ici quelques instants. Nous serons en ligne avec notre envoyé spécial à Rome dès le début de ce journal. Et alors que des négociations se tiennent aujourd'hui à Londres pour tenter de parvenir à une trêve en Ukraine, le dossier de la matinale de RFI, ce sera avec Anissa El-Jabri, de retour de la ville de Kerch en Crimée. L'envoyé spécial de la Radio du Monde a rencontré ses habitants éprouvés par la guerre. Nous serons aussi en Côte d'Ivoire où Tidjane Thiam, candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre pour son parti, le PDCI, a été radié des listes électorales par le tribunal de première instance d'Abidjan. Précision d'ici quelques minutes. Et en Inde, après une fusillade dans la région du Cachemire, le bilan fait état de 26 morts. C'est l'attaque la plus meurtrière contre des civils dans le pays depuis 2008. Le cercueil du pape François transféré à la basilique Saint-Pierre. Nous sommes en ligne avec Daniel Valo. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Dans la capitale italienne pour RFI, la cérémonie très codifiée doit débuter d'un instant à l'autre, Daniel.
Oui, la foule est massée devant l'escalier monumental qui mène à la basilique Saint-Pierre. Les gardes suisses en uniforme sont en place sur les marches blanches. Le transfert du cercueil doit se faire à l'issue d'une prière dans la chapelle de la résidence Sainte-Marthe où repose le pape défunt depuis lundi soir. La prière vient de débuter. Elle est donnée par le cardinal Kamerling, le cardinal Farrell, en charge de la transition jusqu'au conclave qui désignera le nouveau pape. Une procession est organisée ensuite entre la chapelle et la place Saint-Pierre à travers différentes étapes très codifiées. Selon l'agence Immédia, le cercueil doit traverser la place Sainte-Marthe, celle des proto-martyrs, avant de franchir l'arche des cloches qui l'amènera sur l'immense place Saint-Pierre. Le cercueil entrera alors dans la basilique et sera placé ensuite devant l'autel principal, là où, selon la tradition, l'apôtre Saint-Pierre a été inhumé.
Et c'est donc là, Daniel, que sera exposée la dépouille du pape pendant 3 jours.
Oui, 3 jours pour que le public puisse rendre ce dernier hommage au souverain pontife. Ce matin, ce sont déjà de longues files d'attente qui se sont formées aux alentours de la place Saint-Pierre et ce sont probablement plus centaines de milliers de personnes qui vont tenter de s'approcher du cercueil. À noter qu'en rupture avec la tradition, le pape ne reposera pas sur un catafalque à la demande expresse de François qui aspirait à davantage de simplicité dans les rites funéraires.
Daniel Valo depuis Rome avec les moyens techniques de Jadel Khoury, le pape François qui avait marqué son pontificat en dénonçant les conflits en cours sur la planète comme en Ukraine. Justement, le second tour des discussions entre le pays en guerre et ses partenaires occidentaux pour obtenir un cessez-le-feu avec la Russie a lieu aujourd'hui à Londres. Selon Bloomberg et le Wall Street Journal, Washington devrait présenter un plan de règlement du conflit. Parmi les propositions figurerait, toujours selon ces médias américains, une reconnaissance de la Crimée annexée en 2014 par la Russie comme partie intégrante de son territoire, reconnaissante qui serait faite à minima par les États-Unis et peut-être l'Ukraine. Anissa El-Jabri, bonjour.
Bonjour.
Vous vous êtes rendu récemment en Crimée, plus précisément dans la ville de Kerch, entre les deux mers d'Azov et la mer Noire. Quel est le climat sur place ?
Bien depuis février 2023, soit bien avant le lancement de la contre-offensive ukrainienne, la plupart des villes de la péninsule et leurs infrastructures publiques sont en régime d'alerte dit jaune. C'est le dernier niveau avant l'alerte maximale, l'alerte rouge sur le papier. Rien donc n'a changé depuis 2 ans, mais en réalité, eh bien la tension s'est clairement alourdie. Dès que l'on approche de ce qu'on appelle dans le langage officiel un objet stratégique, comprenez une cible potentielle pour l'Ukraine, ça peut être une raffinerie, un dépôt de pétrole, eh bien, on se retrouve privé d'internet, de géolocalisation, et cela à des kilomètres à la ronde. On l'a expérimenté en traversant aussi le pont de Kerch, cette infrastructure frappée, vous vous en souvenez peut-être, spectaculairement en octobre 2022, visée régulièrement par les forces de Kiev, et bien sûr, sous haute sécurité. On peut par exemple à l'entrée y voir un panneau interdiction de photographier et de filmer.
Et alors, comment les habitants de Kerch le vivent-ils ?
Bon, sous couvert de l'anonymat, certains l'avouent, ils voient bien passer des attaques et ça suscite chez quelques-uns de l'angoisse, voire des crises de panique, mais tous refusent d'en dire davantage. On sent qu'ils ont peur. Et pour cause, marcher dans les rues de Kerch, c'est l'assurance de croiser presque toutes les 10 minutes un véhicule des forces de sécurité aux aguets. Rien ne doit filtrer et surtout pas les images. Un cas retentissant reste d'ailleurs dans les mémoires, celui d'un homme arrêté en août 2023 pour avoir posté sur les réseaux sociaux une courte vidéo de la défense anti-aérienne du pont. Il avait été arrêté. Puis ensuite, il était apparu sur la chaîne Telegram d'un homme réputé pour sa proximité avec les forces de sécurité. Il était apparu dans cette vidéo à moitié nu. Il s'excusait et promettait de ne plus jamais recommencer.
Et Anissa, le président américain Donald Trump a dit dimanche espérer un accord cette semaine sur la fin du conflit. Qu'en pensent les habitants que vous avez pu rencontrer à Kerch ?
Bon, tout le monde en Crimée avait déjà entendu parler depuis plusieurs semaines d'une potentielle reconnaissance de la souveraineté russe sur la Crimée. Avaliser l'annexion de la péninsule, ça serait en tout cas contraire au droit international et au traité. Et bien sur place, ça ne suscite pas plus qu'un haussement d'épaules, figurez-vous. Et d'une manière générale, et bien la reprise du dialogue Moscou-Washington, les offres de Trump, et bien ça suscite des sentiments contrastés, rarement un faible espoir et surtout beaucoup, beaucoup de sourires ironiques.
Nous attendons ces négociations depuis longtemps. Et bien sûr, c'est dans notre intérêt. Tous ceux qui ont de jeunes enfants attendent avec impatience un vrai cessez-le-feu. Et le fait que deux grands dirigeants se rapprochent, bien sûr, nous nous en réjouissons.
Trump est un sacré showman. Dans tout ce que je vois à son sujet, il dit sans cesse des choses à peine croyables. Et puis, il se rétracte et ensuite, il redit la même chose. Vraiment, il est étonnant. Il parle vraiment beaucoup. Mais j'espère qu'il réussira à faire pression sur Zelensky et le forcera à trouver une solution à ce conflit.
Il fait tout rapidement, mais ça ne marche pas. Il essaye de faire les choses vite et en fait, il les fait mal. À dire, je vais tout régler en un jour, puis en un mois, puis à Pâques. Franchement, je ne crois pas beaucoup à ce qu'il fait. Trump est un homme d'affaires, il veut faire du business, il veut certaines des ressources foncières de l'Ukraine. Et où exactement il entend les exploiter, on ne sait pas très bien pour l'instant. Il promet beaucoup et il fait peu.
À Kerch comme à Moscou, on a bien entendu aussi le mot d'ordre du pouvoir russe de prudence. Hier encore, le porte-parole du Kremlin mettait en garde contre toute précipitation.
Des précisions signées Anissa El-Jabri, merci à vous. L'actualité, c'est encore la Chine qui dénonce une nouvelle fois les droits de douane américains, des taxes qui nuisent au commerce international, selon le président chinois Xi Jinping. Hier, le président américain a lui assuré que ses droits de douane, qui s'élèvent à 145%, allaient baisser dans un avenir proche. Donald Trump qui estime également qu'un accord avec Pékin pourrait arriver assez vite.
Les États-Unis ou les Haïtiens vivant dans le pays retiennent leur souffle.
Le gouvernement de Donald Trump a annulé plusieurs statuts de protection pour les réfugiés, dont le CHNV, dit Humanitarian Parole, et a annoncé en février mettre fin d'ici le 3 août au statut de protection temporaire pour les réfugiés, un statut dont plus de 500 000 Haïtiens aux États-Unis peuvent bénéficier. Assis à Springfield, dans l'Ohio, les Haïtiens craignent désormais d'être arrêtés et expulsés après s'être retrouvés au centre de la campagne présidentielle quand le président les avait accusés de manger les animaux de compagnie, Édouard Maille.
Les clients vont et viennent dans le restaurant haïtien Au Bon Goût. Un des clients qui bénéficie du statut de protection temporaire redoute les arrestations des autorités de l'immigration dite ICE.
Même au niveau des travails, on nous a annoncé que les agents ICE vont nous visiter à tout moment.
Rose Tamar Joseph est la cofondatrice et directrice des opérations dans le centre communautaire haïtien. Elle ne comprend pas la décision de révoquer le statut de protection temporaire qui prendra fin en août, même s'il est possible que la justice annule cette mesure.
On a des milliers et des milliers d'Haïtiens qui seront ici aux États-Unis sans statut légal. Donc ils ne pourront pas travailler, les enfants ne pourront pas aller à l'école.
Aucune arrestation n'a eu lieu à Springfield, mais le pasteur Carl Ruby craint que la ville ne serve de symbole pour les politiques anti-immigration après la déflagration provoquée par Donald Trump.
Notre ville a tout simplement explosé. Nous avons eu des groupes de suprémacistes blancs qui sont venus et on a eu environ 30 alertes à la bombe.
Le pasteur estime qu'un tiers des Haïtiens ont quitté la ville depuis la campagne présidentielle. Édouard Maille, Springfield dans l'Ohio, RFI.
Un reportage à écouter en long format dans notre journal d'Haïti et des Amériques ce mercredi à 13h10, temps universel.
Donald Trump qui revient aussi sur ses propos à propos du président de la Fed, la Réserve fédérale des États-Unis, après avoir estimé la semaine dernière qu'il était plus que temps que le mandat de Jérôme Powell se termine, faisant au passage tanguer les marchés financiers. Le président américain assure désormais ne pas avoir l'intention de le renvoyer. en Côte d'Ivoire à peine une semaine après avoir été désigné haut la main par son parti, le PDCI, candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre. Tidjam Thiam se heurte à un obstacle juridique. Hier, le tribunal de première instance d'Abidjan a ordonné sa radiation de la liste électorale. Que va-t-il se passer maintenant? Cet opposant semble vouloir s'engager dans un bras de fer politique, Binta Diagne.
Je n'accepte pas cette radiation, elle est injuste, injustifiée et incompréhensible, souligne Tidjam Thiam dans une vidéo postée hier nuit sur les réseaux sociaux. Il n'y aura pas de plan B ni de plan C, insiste le candidat du PDCI actuellement en Europe. Tidjam Thiam dénonce un déni de justice selon ses mots, tout en appelant, je cite, à un dialogue constructif afin que le scrutin d'octobre soit conforme aux normes internationales et que personne ne soit exclu du processus électoral. Mais pour l'instant, Tidjam Thiam doit à nouveau défendre son dossier ce jeudi devant le tribunal de première instance d'Abidjan. Il s'agit d'une procédure enclenchée par Valérie Yapo, une militante du PDCI, qui conteste la légalité de son élection à la tête du parti en décembre 2023. Cette militante estime qu'il avait à cette période-là perdu la nationalité ivoirienne en vertu de l'article 48 du Code de la nationalité. Cet article stipule qu'un Ivoirien majeur perd la nationalité au bout de 15 ans s'il acquiert volontairement une nationalité étrangère. C'est précisément cet argument qui a motivé hier le tribunal de première instance à ordonner sa radiation de la liste électorale. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Et puis après s'être rendu à Mayotte et à La Réunion en début de semaine, Emmanuel Macron doit atterrir, a peut-être atterri à Madagascar. Il y rencontrera son homologue. Objectif, renforcer les liens bilatéraux ainsi que la place de la France dans l'océan Indien. Il s'agit de la première visite d'un président français dans ce pays depuis Jacques Chirac, c'était en 2005.
C'est l'attaque la plus meurtrière contre des civils en Inde depuis 2008.
Au moins 26 personnes ont été tuées lors d'une attaque terroriste dans l'état du Jammu et du Cachemire. Nous rejoignons notre correspondant en Inde pour les derniers développements sur place. Koum Bastin, bonjour.
Bonjour.
Koum, comment est-ce que le pays réagit à cette tuerie?
Le choc est immense et ses conséquences sont incalculables. Depuis 2019, Narendra Modi avait repris fermement en main cette région à majorité musulmane, promettant d'en finir avec les groupes indépendantistes locaux et d'en faire un paradis touristique. Des attaques avaient persisté contre les militaires, mais jamais de cette ampleur et contre des civils. Et ce n'est pas un hasard si le groupe islamiste qui revendique l'attaque a visé les touristes. Il dénonce l'occupation de cet État et la suppression de son autonomie. C'est donc toute la politique du Premier ministre qui est défiée dans la région et il va devoir répondre avec force. D'autant que selon la presse indienne, ce groupe serait soutenu par le Pakistan, voisin et ennemi juré. Alors Narendra Modi est rentré en urgence d'Arabie Saoudite pour coordonner la traque des terroristes. Deux auraient déjà été tués. En attendant, de nombreux Indiens font part de leur émotion sur les réseaux sociaux. À mesure que les détails sordides de l'attaque sont révélés, des réactions de solidarité parviennent du monde entier.
Koum Bastin en Inde pour RFI. Près de 60 ans après son utilisation, un pesticide a été retrouvé dans des truites et dans la boue des lacs de la province canadienne de New Brunswick. C'est le constat fait par des scientifiques qui ont publié une étude dans la revue scientifique PLOS ONE. Le dichlorodiphényltrichloroéthane, ou plus simplement DDT, très utilisé dans les années, dès les années 50 aux années 1970 dans la sylviculture canadienne, est un insecticide probablement cancérogène pour l'homme, Pauline Berger.
Dans les années 50 et jusqu'en 1968, le DDT était pulvérisé sur les forêts canadiennes de conifères pour les protéger des insectes transportant le paludisme. Plus de 50 ans plus tard, il a été retrouvé dans près de la moitié de la province de New Brunswick, mais aussi dans l'organisme des truites qui vivent dans ces lacs, en quantité importante, parfois jusqu'à 10 fois supérieure au seuil de sécurité nationale. Selon Joshua Kurek, auteur de l'étude, cette pollution menace les écosystèmes et les pêcheurs.
Brook trout, it's the most common fish.
La truite mouchetée est le poisson le plus pêché par les pêcheurs amateurs dans cette province. Ils sont plus de 50 000 à détenir un permis de pêche et la plupart d'entre eux consomment les poissons qu'ils ont attrapés. Et nous savons que chez l'homme, le DDT est reconnu comme probablement cancérogène.
Une menace qui concerne particulièrement les femmes en âge de procréer et les enfants, mais pour s'en protéger, les remèdes manquent.
Il n'y a pas de solution. C'est pour ça que ces produits chimiques synthétiques comme le DDT ont été bannis. La seule solution, c'est le temps. Tout en sachant que le DDT peut persister dans la boue au fond des lacs de plusieurs dizaines d'années à 150 ans.
Interdit d'utilisation pour l'agriculture intensive, le DDT est encore autorisé en petite quantité dans les États qui luttent contre le paludisme, malgré les risques pour la santé humaine.
Pauline Berger pour cette fin d'édition.
Grégoire Morelli pour ce journal. 9h15 à Paris. Dans les prochaines minutes, on part en Turquie, puis à Mexico. Mais d'abord, c'est la revue de presse internationale. Une quelle direction pour l'Église catholique, Frédéric Couteau?
Après la disparition du pape François, le débat est lancé. Qui pour lui succéder et dans quel esprit? Ouverture ou bien repli sur la tradition? On est à un point de bascule, souligne Le Monde à Paris. Apôtre de la bienveillance, plus attentif au sort des pauvres qu'aux normes morales, préférant l'ouverture sur le monde et l'écoute des autres au repli sur soi, le pape François disparaît précisément au moment où les forces qui s'opposaient à ses choix se renforcent, voire s'imposent dans plusieurs régions du monde, à commencer par les États-Unis. Ironiquement, pointe encore Le Monde, le souverain pontife a rendu son dernier souffle peu de temps après avoir reçu brièvement le vice-président américain J.D. Vance, figure de proue de la réaction catholique aux États-Unis. Seul le temps long dira si, au-delà du pontificat de François, l'Église romaine sera capable de rejeter durablement l'impasse identitaire et la tentation conservatrice présente sur tous les continents et si clairement combattue par le chef qu'elle vient de perdre.
Alors, qui pour succéder à François et dans quelle direction le soir à Bruxelles débroussaille le chemin?
Parmi les cardinaux les plus traditionalistes, épinglons deux opposants notoires au pape François, relève le quotidien belge, l'américain Raymond Leo Burke et le guinéen Robert Sarah, tous deux tenant de positions très conservatrices, notamment sur les femmes, les divorcés ou encore les homosexuels. Le continent africain, qui entend faire peser son nombre de fidèles dans la balance, peut aussi compter sur le ghanéen Peter Turkson, très influent, souvent présenté comme favori pour devenir le premier pape noir. Ou encore le Congolais Fridolin Ombongo, voix puissante du mouvement pour la paix en République démocratique du Congo qui pourrait rassembler sur son nom des votes de cardinaux jugés conservateurs. A l'inverse, note encore Le Soir, deux candidats plus progressistes et plus proches du pape François semblent aussi dans la course. Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, et Anders Arborelius, évêque de Stockholm, tous deux très engagés pour la défense des migrants.
En choisissant un nouveau pape, le collège des cardinaux est confronté à un choix capital pour le Washington Post.
Choisira-t-il ce collège un successeur qui poursuivra la vision réformiste de François ou bien optera-t-il pour un correcteur, quelqu'un qui pourrait guérir les failles que François a révélées et parfois exacerbées? En réalité, poursuit le quotidien américain, François a lui-même remodelé le collège en nommant des cardinaux qui partagent largement ses sensibilités. Pourtant, l'histoire nous apprend que les conclaves papaux oscillent souvent entre des visions contrastées à la recherche d'un équilibre après des périodes de changement spectaculaire. Le conclave est confronté au défi délicat de trouver une figure capable de maintenir la chaleur pastorale de François tout en apaisant les inquiétudes doctrinales. Alors, estime le Washington Post, alors peut-être quelqu'un d'Afrique ou d'Asie où le catholicisme continue de s'épanouir sans les préoccupations particulières du progressisme occidental.
Justement, un pape noir donnerait à l'Afrique la voix qu'elle mérite, estime pour sa part le Times à Londres.
Oui, selon le Vatican, le continent africain compte 176 millions de catholiques, mais il ne s'agit pas seulement d'une question de chiffres. Un pape africain pourrait user de son influence pour ancrer plus fermement le continent dans la géopolitique actuelle. La guerre féroce et généralisée au Soudan a été largement oubliée par les Nations Unies. Des millions de personnes meurent de faim dans les combats entre l'armée soudanaise et les milices des forces de soutien rapide. Le choléra fait rage, les frontières s'effondrent. Il y a aussi des guerres pour des ressources rares, poursuit le Times, comme celle entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ou encore il y a des guerres pour l'eau. C'est l'un des arguments en faveur d'un pontife africain, quelqu'un capable d'utiliser une grande tribune pour défendre les victimes d'une guerre oubliée. Quelqu'un, souligne encore le Times, capable de faire honte et de convaincre les politiciens traditionnels de l'Occident pour enfin ils agissent.
Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale, RFI, 9h19 à Paris. En Turquie, comme dans le monde, les droits des personnes LGBT+, reculent. Depuis plusieurs années, le gouvernement du président turc Recep Tayyip Erdogan s'en prend directement et de plus en plus violemment aux ONG de défense de cette communauté. Mais cette année, décrétée année de la famille, en Turquie, les autorités préparent une loi qui pourrait aboutir à la criminalisation de l'homosexualité au sein de l'espace public. À Ankara, Anand Lower nous en parle.
Le 13 janvier dernier, Recep Tayyip Erdogan présentait les priorités de son gouvernement pour l'année de la famille, ainsi que le président turc a désigné 2025. Le ton, l'intention, la cible était claire.
À ce stade, nous le voyons de façon très nette. La cible principale des politiques de désexualisation dans lesquelles les LGBT sont utilisés comme un bélier est la famille. Cette anomalie qu'ils ont d'abord voulu légitimer en parlant de choix personnels s'est transformée en une injonction fasciste.
Il parle aussi souvent de pervers et de déviants pour attaquer les LGBT, qu'il compare à la peste. La marche des fiertés autrefois autorisée est interdite depuis plus de 10 ans, tout comme le drapeau arc-en-ciel. Mais en cette année de la famille, le pouvoir veut aller plus loin. Un projet de loi en préparation prévoit, entre autres, de punir d'un à trois ans de prison le fait, je cite, « d'encourager ou de faire l'éloge en public d'attitudes et de comportements contraires au sexe biologique de naissance et à la moralité publique ». Si le texte passe en l'état, les conséquences sur le quotidien des LGBT de Turquie seront radicales. Kerem Dikmen, coordinateur du programme Droits de l'Homme de l'ONG Chaos JL.
Par exemple, deux lesbiennes ou deux gays qui se tiennent la main dans la rue, ou un individu de sexe biologique masculin qui porte une jupe ou se maquille, tout cela sera criminalisé. Tout cela sera puni de prison.
Que la loi soit ou pas adoptée en l'état à plus ou moins longue échéance ne change rien au fait que les minorités sexuelles de Turquie affrontent d'année en année un climat politique de plus en plus hostile et répressif. Et ce climat n'est pas seulement lié à la montée ailleurs en Europe et dans le monde de gouvernements de droite conservateurs et populistes. Abdullah Iqbal Arslanbash est avocat pour l'association 17 mai, une ONG LGBT basée à Ankara.
Oui, le fait que Trump soit au pouvoir aux États-Unis ou Orban en Hongrie arrange les affaires du pouvoir turc. Mais au-delà de ça, le pouvoir en Turquie a aussi son propre agenda politique. D'une part, en s'en prenant au mouvement LGBT+, comme au mouvement féministe, il offre des gages aux franges les plus radicales de son électorat, et donc consolide sa base. D'autre part, il se sert des LGBT+, pour attaquer toute l'opposition, des partis d'opposition à la société civile, en usant de la polarisation.
Recep Tayyip Erdogan accuse notamment le Parti républicain du peuple, le CHP, le parti du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, incarcéré le mois dernier, d'être pro-LGBT, dans le but de dénigrer la principale formation d'opposition aux yeux des Turcs conservateurs qui ne votent pas tous pour le pouvoir en place. Anne-Laure Ankara, RFI.
Reportage à retrouver plus en longueur dans notre émission Accent d'Europe, tout à l'heure à 19h10, hors de Paris. Les LGBT+, ciblent aussi des autorités américaines. Donald Trump s'en prend régulièrement aux minorités sexuelles depuis son retour au pouvoir, mais aussi aux migrants, largement stigmatisés par Washington, jusqu'au Mexique voisin, où le discours anti-immigration américain se retrouve sur des spots publicitaires diffusés sur les grandes chaînes de télévision mexicaines. Et cela fait bien sûr beaucoup réagir dans le pays. Bonjour Gwendolina Duval.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Mexico, Gwendolina. Dites-nous un peu qu'est-ce que c'est que cette publicité.
Il s'agit d'un spot d'une minute en anglais, sous-titré en espagnol. Entrecoupé d'images de la crise migratoire, d'arrestations et de trafic, on y voit la secrétaire d'État américaine à la sécurité, Kristi Noem. Avec un ton ferme, elle dit que les personnes présentes illégalement sur le territoire américain seront chassées et expulsées. À celles et ceux qui envisageraient d'aller aux États-Unis, elle avertit, n'y pensez même pas. Les criminels ne sont pas les bienvenus. C'est une publicité qui a été diffusée sur plusieurs grandes chaînes de télé privées au Mexique à des heures de grande écoute, au milieu de matchs de foot, de séries et même au milieu de la couverture de la disparition du pape. Washington a traité directement avec les groupes de médias nationaux. On ignore les détails des contrats et le montant que les États-Unis auraient déboursé pour diffuser ce spot de publicité sur les antennes mexicaines. Mais la Maison-Blanche avait annoncé cette campagne nationale et internationale de plusieurs millions de dollars.
Le gouvernement mexicain, Gwendolina, a fait savoir qu'il n'était pas d'accord et cherche désormais à interdire ces contenus politiques étrangers sur son territoire.
Oui, la question c'est comment se fait-il qu'un gouvernement étranger puisse avoir accès à des espaces de publicité sur des chaînes mexicaines pour diffuser des contenus politiques, qui plus est sur des sujets aussi sensibles. Le gouvernement vient de mettre le doigt sur un vide juridique. Actuellement, il n'y a pas de loi qui régule les publicités étrangères au Mexique. Donc la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a annoncé que son gouvernement allait lancer un projet de loi pour interdire ces contenus. Les concessionnaires de radio et de télédiffusion ne pourront plus transmettre de la propagande politique, idéologique ou commerciale de gouvernement ou d'entité extérieure au Mexique.
Finalement, Gwendolina, même si pour l'heure tout cela semble légal, cette campagne est tout de même critiquée pour la stigmatisation des Mexicains et des migrants.
Cette publicité associe clairement les migrants à la criminalité. Le gouvernement mexicain dénonce ce contenu très discriminatoire de la campagne. La CONAPRED, qui est l'Institut mexicain de lutte contre la discrimination, a reçu des plaintes de la part de citoyens. L'institution a demandé aux chaînes de télévision de ne plus retransmettre la campagne car elle pourrait encourager la violence envers les personnes migrantes. Le ministère de l'Intérieur a fait la même demande. Le Mexique accuse les États-Unis de véhiculer cette idée que les migrants sont des auteurs de crimes aux États-Unis et ce discours agressif envers l'immigration. Depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, les flux migratoires se sont presque stoppés net. En mars, le nombre de passages de frontières illégaux est tombé à 11 000 contre 199 000 l'année dernière à la même période.
Gwendolina Duval, correspondante d'RFI à Mexico. Hier, c'était la journée de la Terre, célébrée pour la toute première fois en 1970. Laurent Guignard, d'où notre question d'environnement ce matin. Pourquoi l'écologie politique est née dans les années 70?
Alors, pour le comprendre, Andréane, on va d'abord s'arrêter sur cette première journée de la Terre, le 22 avril 1970. Elle est organisée uniquement aux États-Unis. Des millions d'Américains participent à des manifestations. Et la chaîne de télé CBS diffuse une émission spéciale.
This is a CBS News special. Earth Day. A question of survival.
Une question de survie.
À ce moment-là, le contexte est particulier.
Effectivement, les États-Unis viennent de subir plusieurs marées noires. C'est ce que nous rappelle François Jarige. Il est historien de l'environnement.
Marée noire, là, c'est spectaculaire. Là où les pollutions étaient invisibles, là, il n'y a pas de débat. Les oiseaux sont mazoutés. Les habitants des littoraux voient les nappes de pétrole sur les côtes. Il y a une sorte d'immédiateté, d'évidence, de la nuisance.
C'est la fin des Trente Glorieuses, mais on ne le sait pas encore. Et un an avant, le premier choc pétrolier. Un rapport choc est publié en 1972 par le Club de Rome. Il s'appelle « Les limites de la croissance ». Et le constat est simple, hein, les ressources de la planète s'épuisent. Écoutez ce qu'en disait alors le fondateur du Club de Rome, Aurelio Peccei.
Il faut prendre conscience des nouvelles réalités. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, alors, je pense que les souffrances humaines seront presque infinies.
C'est l'apocalypse qui vient et c'est un carton, 12 millions d'exemplaires vendus en 37 langues, François Jarige.
Oui, il a vraiment un impact planétaire. C'est-à-dire que quand vous ouvrez les quotidiens et les journaux de l'époque, les alertes du Club Mundos sont largement reprises. Il rompt avec la confiance antérieure dans une sorte d'expansion continue et infinie. Ce rapport frappe les contemporains parce qu'il donne du sens à ce qui arrive à l'époque, hein, et notamment la dépendance croissante à l'égard des énergies fossiles.
Alors il y a des livres, il y a aussi de la musique.
Mais par exemple, un tube de Marvin Gaye. Oh, Merci, Merci Me, The Ecology, c'est le titre numéro 1 aux États-Unis à l'été 71. Oil wasted on the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Pitié par pitié, c'est une chanson sur la pollution des mers notamment.
Mais alors est-ce qu'on doit comprendre, Florent, qu'avant 70, on s'en fichait de l'environnement?
Non, parce que la conscience écologique, en fait, elle ne date pas d'hier, ni même d'avant-hier. Le mot écologie, par exemple, Andréane, il est né à la fin du 19e siècle, avec la révolution industrielle. Et à la même époque, d'ailleurs, un scientifique suédois fait le lien entre CO2 et température planétaire.
Et donc, qu'est-ce qui change au début des années 70?
Eh bien, c'est la fin de l'âge d'or économique. Et dans le sillage de mai 68, les lignes bougent en Occident, François Jarige.
On sort d'une période, d'une génération, où la question avait été un peu invisibilisée par l'expansion économique, l'enrichissement généralisé. Or, précisément, mai 68 ouvre l'émergence de ce qu'on va appeler à l'époque les nouveaux mouvements sociaux, notamment les questions de féminisme, de genre, et puis la question écologique. Le début des années 70, c'est le moment d'apparition des grandes ONG environnementales. Tout ça fait qu'on va assister à l'entrée en politique de l'écologie.
Et voilà la première candidature à la présidentielle en France en 74.
Merci Florent Guignard, c'était notre question d'environnement.
L'exposition Mission Dakar Djibouti 1931-1933 contre-enquête jusqu'au 14 septembre au musée du Quai Branly Jacques Chirac explore l'une des missions ethnographiques les plus emblématiques et revisite les conditions de collecte et les récits de cette traversée de 14 pays africains. Ces contre-enquêtes interrogent les enjeux mémoriels et scientifiques. Mission Dakar Djibouti 1931-1933 contre-enquête à découvrir jusqu'au 14 septembre au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Plus d'informations sur quaibranly.fr en partenariat avec France Média Monde.
Le journal en français facile.
Bonjour, je m'appelle Priyanka et je suis indienne. J'écoute le français facile depuis un an. Les mots utilisés sont simples et très utiles pour la vie quotidienne. En tant que débutante, je l'ai trouvé génial car les podcasts proposent différents types de sujets intéressants décrits en français simple.
Le journal en français facile, c'est du lundi au vendredi à 16h TU sur RFI et quand vous le voulez sur françaisfacile.rfi.fr.